Radio Prague, les informations.
Mirek Topolánek envisage de créer un gouvernement minoritaire du Parti civique démocrate. Le festival Czech-Tech se poursuit dans la région de Chomutov en Bohême de l'Ouest. Marche contre la construction d'une route en Bohême du Nord. Après l'échec des tentatives de créer un gouvernement du centre droit, le chef du Parti civique démocrate ODS, Mirek Topolánek, envisage de créer un gouvernement minoritaire de l'ODS toléré par le Parti social-démocrate, le Parti chrétien-démocrate, KDU-CSL, et le Parti des Verts. Un tel projet n'est pas cependant bien vu par les représentants de ces trois dernières formations. 40 000 participants sont déjà arrivés à Machtov en Bohême de l'Ouest, où a lieu ce week-end la Czech Tech, un grand festival de musique techno, et leur nombre pourra encore augmenter. 400 policiers ont été mobilisés pour surveiller le déroulement calme de la fête. Quelques 150 personnes ont pris part à une marche de protestation contre la construction de la route R35 dans Český Raj, le paradis tchèque, une région située en Bohême du Nord. Malgré la chaleur, les participants se sont rendus dans toutes les localités qui seront atteintes par la construction de la route. Une trentaine de forgerons et quelques 150 artisans d'autres professions de Tchéquie et de Slovaquie se sont réunis ce dimanche dans Valašské muzeum, musée d'architecture populaire de Valachie, à Rožnov, en Moravie centrale. Ils ont montré leur savoir-faire aux visiteurs du musée. Sport. La joueuse de tennis tchèque Nicole Vaidišová a gagné son deuxième match au championnat de Stanford en Californie en battant l'Australienne Samantha Stosur 6-4, 6-2. Elle s'est qualifiée pour les demi-finales où elle doit rencontrer la Belge Kim Clijsters. Météo. Ce samedi, fête de toutes les Marta selon le calendrier tchèque. Le ciel en Tchéquie a été nuageux à couvert avec de la pluie et des orages, notamment sur l'ouest du pays. Les températures en Bohême se sont situées entre 25 et 29 degrés. En Moravie, elles ont atteint encore 33 degrés. Dimanche, le temps en République tchèque sera variable avec des averses et des orages par endroits. Et les températures se situeront entre 27 et 31 degrés. C'était les informations de Radio Prague présentées par Václav Richter.
Rencontre littéraire. Václav Richter.
Parmi les écrivains pragois de langue allemande, Leo Perutz fait figure de solitaire. Parti assez tôt avec toute sa famille à Vienne, où il s'installe au début du XXe siècle, il n'avait pas de rapport d'amitié avec Kafka et les autres grands écrivains pragois. Max Brod précise. Perutz est né à Prague, mais sa vie s'est passée presque toujours à Vienne. Il n'avait avec nous pratiquement pas de relation. Pourtant, les premières 16 années passées en Bohême et à Prague n'ont jamais été oubliées par cet écrivain qui concevait la vie comme un grand mystère. Il a consacré à la capitale tchèque un de ses plus beaux livres, « La nuit sous le pont de pierre ». Les années pragoises se sont profondément incrustées dans la mémoire de Leo Perutz. Son souvenir de l'ancien ghetto juif est resté vivant.
Vers le début du siècle, alors que j'avais 15 ans et que je fréquentais le lycée, je vis la cité juive de Prague pour la dernière fois. Bien sûr, elle ne portait plus ce nom depuis longtemps. On l'appelait Josefstadt. Elle reste dans mon souvenir telle que je la vis alors. De vieilles maisons blotties les unes contre les autres. Des maisons au dernier stade du délabrement, avec des saillies et des ajouts, qui encombraient les ruelles étroites, venelles tortueuses dans le dédale desquelles il m'arrivait de me perdre sans espoir lorsque je n'y prenais pas garde. des passages obscurs, des cours sombres, des brèches dans les murs, des voûtes telles des cavernes où des brocanteurs vendaient leurs marchandises, des puits et des citernes dont l'eau était contaminée par la maladie pragoise, le typhus, et dans les moindres recoins, à tous les carrefours, un tripot où se retrouvait la pègre de Prague. Oui, je connaissais bien la vieille cité juive.
Léo Perutz, né à Prague en 1884 dans une famille juive qui s'appelait jadis Pérez, ce qui trahit son origine espagnole. Bénédicte Perutz, le père de l'écrivain, possède à Prague une usine textile détruite par un incendie en 1899. Après cet accident, Léo Perutz quitte Prague pour Vienne, où Léo s'inscrit au lycée puis à l'université. Il étudie les mathématiques, l'économie et la théorie de la probabilité. Il commence à travailler en 1907 dans une caisse d'assurance. Grièvement blessé lors de la Première Guerre mondiale, il est affecté au centre de la presse militaire où il côtoie Werfel, Moussil et d'autres écrivains. Marié pour la première fois en 1918, père de deux enfants, il se remarie après la mort de sa première femme en 1935. En 1938, il fuit le danger nazi et s'installe avec sa famille en Palestine, où il se sent cependant déraciné et qu'il quitte souvent pour se rendre en Europe dès que cela devient possible. Au cours d'un de ses séjours, il meurt à Bad Ischl en 1957. Il laisse une œuvre littéraire importante. Parmi les livres qui lui ont valu une notoriété, qui ne se démentira d'ailleurs pas pendant toute la seconde moitié du XXe siècle, citons au moins Le Marquis de Bolibar, Le Cavalier suédois, Turlupin, La Neige de Saint-Pierre, Le Tour du Cadran et Le Maître du Jugement Dernier. Tous ces livres seront traduits en français. Au soir de sa vie, Léo Perutz se souviendra de la ville de sa jeunesse. Après une vie mouvementée, après avoir confié à sa plume des histoires qui se passent à Vienne, en Italie, en Amérique, il revient à la source et écrit un roman qui, malgré quelques imprécisions dénoncées par les historiens, peut être considéré au premier abord comme historique.
Perutz est un prestidigitateur magnifique,
écrit à son propos le critique et journaliste Olivier Senna.
Il aime comme arme suprême utiliser l'histoire, l'officiel et la petite. Entendez par là, dans un contexte bien précis, il s'insinue à travers une faille obscure dans le monde de la fiction. Là, on retrouve les thèmes privilégiés de Perutz, l'amour, la mort, la fatalité et le destin entrant dans la construction d'un jeu machiavélique de substitution.
Le lecteur attentif se rend bientôt compte d'être loin d'un simple roman historique, car les sujets principaux de ce dernier livre publié par Perutz sont la poésie et le rêve. À vrai dire, il ne s'agit même pas d'un roman dans le sens classique du terme, mais plutôt d'un recueil de courts récits de la Prague du début du XVIIe siècle, époque de l'empereur Rodolphe II. Ces épisodes, où l'on reconnaît plusieurs personnages ayant vraiment existé, s'entrecroisent parfois, mais d'autres fois, ils ne sont liés que par la ville où ils se déroulent, par le climat poétique et le langage musical dans lequel ils sont racontés. Le monde de Léo Perutz est chargé de signes et de symboles. Le climat spirituel de son livre s'édifie sur une trame subtile, sur les contrastes et les ressemblances entre l'histoire et le présent, le monde chrétien et la cité juive, la vie et la mort, le rêve et la réalité, le Nouveau Testament et la Kabbale, le luxe et la pauvreté, la beauté et la laideur, la jeunesse et la vieillesse. Devant le regard intérieur du lecteur pris au piège, défilent l'empereur Rodolphe, le riche marchand juif Mordechai Meissel et sa jeune et belle femme Esther, le rabbin de la cité juive, mais aussi l'archiduc guerrier Albrecht de Wallenstein, l'astronome Kepler, le valet de chambre de l'empereur Philippe Lang, l'alchimiste Jacobus van Dele et son ami Broza le fou. Les morts dans ces récits côtoient les vivants. La vie ressemble au rêve et le rêve à la vie. Les archanges descendent sur la ville dormante et pleurent des larmes d'hommes. On ne peut pas raconter un roman de Perrault sans gâcher le plaisir du lecteur. On ne dévoile pas la science d'un magicien, estime le critique Olivier Senna. Je ne vais donc pas dévoiler l'intrigue de ce roman. Ce programme n'a été qu'une invitation à la lecture de ce livre riche et poétique qui est La nuit sous le pont de pierre. Vous avez cette possibilité grâce à la traduction de Jean-Claude Capel, parue aux éditions Fayard. Merci d'avoir suivi cette émission qui vous a été proposée par Václav Richter et merci également à Guillaume Narguet et Alain Slivinski qui ont collaboré à cette émission, ainsi qu'à Irena Viernochova, réalisation technique, et à Pavel Kahoun, prise de son.
Le Tchèque du bout de la langue. Guillaume Narguet.
Salut à tous les tchécophiles de Radio Prague. Comme chaque année, pour des centaines d'étudiants venus du monde entier, l'été est synonyme d'apprentissage des nombreux mystères de la langue tchèque en République tchèque. Depuis lundi, 85 élèves en provenance de plus de 20 pays d'Europe, mais aussi d'Amérique et de l'Asie, sont ainsi réunis à Olomouc, en Moravie du Nord, à l'occasion de l'école d'été d'études slaves organisée par la faculté des lettres de l'université Palatsky. Pendant 4 semaines, tous joindront l'utile à l'agréable. Après les cours donnés chaque matin, différentes activités culturelles et excursions à travers le pays permettent en effet aux étudiants de mettre en pratique leurs nouvelles connaissances dans la langue de Karel Čapek ou Jaroslav Seifert. Secrétaire de ces cours d'été, Teresa Vrbova a évoqué ce programme et les motivations des étudiants, jeunes ou moins jeunes, en répondant aux questions d'Anna Kubišta.
Étudier la langue tchèque parce qu'ils font ces études, par exemple, dans ce pays, donc ils étudient la langue tchèque, mais il y a aussi des étudiants qui étudient la musique, par exemple, et ils veulent connaître quelque chose des musiciens qui viennent de notre pays. Donc, ils sont intéressés à étudier la langue tchèque.
Vous voulez dire, par exemple, à cause de Bedřich Smetana ou Antonín Dvořák?
Comme ça, Mais d'autres étudiants, par exemple, ses grands-mères ou grands-pères viennent de la République tchèque, donc ils vont apprendre leur langue. Mais aussi, nous avons les étudiants qui veulent travailler ici ou étudier dans le futur proche, donc ils vont pratiquer.
Comment est organisé le séjour? Que font-ils? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur le déroulement des 4 semaines?
Donc, le matin, oui, ils ont le cours. Ce sont 4 heures plus 1 heure de conversation. Donc, ils apprennent la grammaire et ils pratiquent la communication dans les groupes différents parce que nous avons les débutants, mais aussi les étudiants qui peuvent parler presque comme le tchèque natif. L'après-midi, on offre la lecture, qui sont en anglais, mais aussi en tchèque. La lecture de, par exemple, aussi de la littérature tchèque, la grammaire, l'histoire, mais aussi, par exemple, les films tchèques, l'architecture tchèque, etc. Et 2 fois par semaine, on projette le film tchèque le soir avec subtitres, donc ils sont en anglais, donc même les étudiants qui peuvent pas parler en tchèque très très bien peuvent les regarder. Pendant le week-end, on va par exemple on va à Prague pour le week-end, donc on organise les excursions pour samedi.
Comment réagissent, par exemple, les tout débutants à la langue tchèque? Est-ce que les difficultés, par exemple, pour apprendre la langue, ça diffère selon les nationalités ou, grosso modo, on retrouve à peu près les mêmes remarques, par exemple, je sais pas, sur les déclinaisons, sur la grammaire?
Oui, il y en a la différence. Pour les étudiants qui peuvent parler une langue slave, par exemple, on a des étudiants d'Ukraine ou de Bosnie-Herzégovina. Donc pour eux, c'est plus facile. Mais par exemple, on a des Américains qui commencent avec la langue tchèque, ça peut être un peu plus difficile.
Et quelles sont par exemple leurs difficultés? C'est plutôt la prononciation, les déclinaisons?
Je crois pour... Oui, ça peut être aussi la prononciation, parce que la langue tchèque a une prononciation de certaines lettres qui est un peu difficile, je crois, pour les étrangers, comme je, tu, etc. Mais aussi, oui, la déclination et conjugation, ça peut être vraiment difficile aussi.
Cette année, donc, vous m'avez dit que vous fêtiez les 20 ans de cette université d'été. De ce que vous savez, vous, qu'est-ce qui a changé depuis les débuts? Comment est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous voyez plutôt, en effet, je ne sais pas, une amélioration, plus de gens, plus de programmes, plus de possibilités?
Cette année est un peu spéciale parce que c'est un anniversaire. Donc, on a offert aussi un projet avec les acteurs et les actrices d'un théâtre de la mode. Donc, on va offrir un atelier de théâtre pour les étudiants. Donc, c'est quelque chose, c'est une chose nouvelle. Cette année, notre école se déroule dans un bâtiment qui s'appelle Convict. C'est un bâtiment qui a été reconstruit il y a 3 ans, je crois. Donc, c'est un bâtiment très vieux, mais très représentatif. Je crois que ça nous aide à créer une atmosphère qui est vraiment aimable pour les étudiants.
Est-ce que tous les ans, ce sont des personnes nouvelles ou est-ce que des gens reviennent?
Bon, ils reviennent. Nous sommes très heureux pour ça. Par exemple, cette année, on a un couple anglais. La femme est d'une origine tchèque. Mais ils ont plus que 70 ans. Ils reviennent. Ils sont allés ici il y a 2 ans. Donc ils reviennent parce qu'ils m'ont dit qu'ils aimaient beaucoup, beaucoup une ambiance ici, l'atmosphère universitaire.
Voilà, c'était Teresa Vrobova, responsable de l'école d'été d'études slaves organisée par l'université d'Olomouc. C'est également la fin de ce tchèque du bout de la langue. Merci de votre attention. Restez encore un instant en notre compagnie.
Courrier des auditeurs.
Merci de ne pas oublier Radio Prague même pendant les vacances, en voyage, dans les montagnes, au bord de la mer. Les cartes et les courriels que nous recevons ces jours-ci nous donnent une image vive en couleur de vos activités estivales.
Nous allons en citer quelques passages dans cette émission qui vous est proposée aujourd'hui par Anna Kubista et Václav Richter.
Jacques Augustin nous a envoyé une belle carte représentant une mosaïque de Ravenne. Il écrit « Chers amis, quelques lignes alors que nous passons actuellement quelques jours en Italie, où soleil et plage ne manquent pas. La radio est un peu délaissée, mais c'est avec plaisir que j'adresse à toutes et à tous de la rédaction française de Radio Prague mon meilleur souvenir. »
Quant à Monsieur Anthony Lozère de Poitiers en France, il nous a envoyé une carte de Paris. « Chère équipe de Radio Prague, écrit-il, je vous envoie une carte postale de notre capitale française où j'assiste à notre défilé annuel du 14 juillet. J'en profite pour vous remercier à nouveau pour le superbe sac que vous m'avez envoyé et que j'ai utilisé pour la première fois à l'occasion de ce voyage. À bientôt !»
Comme chaque semaine, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre émission « Le tchèque du bout de la langue », cette fois-ci consacrée au mot « štěstí », chance, bonheur, nous écrit Monsieur Lozère dans un courriel. Pour souhaiter de la chance, de la réussite dans une épreuve difficile, on peut dire « hodně štěstí ». Mais il y a une autre expression que je trouve irrésistible. « Zlom, zlomte vás ». Celle-ci veut également signifier « bonne chance, bon courage », mais littéralement elle veut dire « rompez la nuque ». Malgré ses origines morbides, cette expression idiomatique est pourtant extrêmement bienveillante. Pouvez-vous me dire pourquoi ou comment, au fil des ans, il y a eu un glissement de sens? N'y aurait-il pas une légende là-dessous? En tout cas, ce sont ces nombreuses expressions idiomatiques qui font la richesse de votre si belle langue tchèque.
Monsieur Lozer, l'explication est assez simple. Il ne s'agit pas d'un glissement de sens, mais d'une superstition. Le sort nous joue souvent de mauvais tours et on pense qu'il ne faut jamais dire « bonne chance » car c'est toujours le contraire qui nous arrive finalement. Donc c'est pour tromper le sort qu'on dit à la personne à laquelle on souhaite la réussite quelque chose de méchant, de cruel, justement le contraire de ce qu'on lui souhaite en réalité. En lui disant « Zlomvas, romps la nuque, casse-toi le cou », nous désirons tromper, déjouer le sort. Ainsi, la formule « Zlomvas » devient une espèce de formule magique qui doit apporter bonheur à la personne qui nous est sympathique. Ce genre de superstition est assez courant. C'est probablement le même raisonnement d'ailleurs qui amène les Français à dire « merde » au lieu de souhaiter « bonne chance ».
Nous venons souvent dans votre merveilleux pays visiter nos amis à Prague et du côté de Mladá Boleslav, lisons-nous dans un courriel de Dani Kargoet de France. Nous avons la chance d'y être guidés, d'aller à l'opéra et dans divers spectacles. Or aujourd'hui, j'ai des amis français qui ont enfin décidé d'aller vous visiter. J'aurais aimé leur indiquer le spectacle des fontaines chantantes, Křižíková Fontana, mais je ne me souviens plus de l'adresse exacte pour s'y rendre et de la station de métro la plus proche. C'est un spectacle extraordinaire que je voudrais faire connaître à mes compatriotes. Pourriez-vous m'aider?
Voici donc l'information demandée par Dani Kargoet et pour tous les visiteurs de Prague qui désirent voir les fontaines chantantes. Elles se trouvent au parc des expositions dans le quartier de Holešovice de Prague, Prague 7, station de métro Holešovica, où il faut prendre encore le tram numéro 17, direction du centre-ville, et descendre au premier arrêt. Les fontaines chantantes sont encore plus impressionnantes le soir, où l'éclairage de toutes les couleurs rehausse le spectacle.
Et si vous aimez les fontaines chantantes, je vous conseille d'aller voir aussi celle qui se trouve dans le parc du château de Prague, en face du Belvédère. Beaucoup plus modeste que sa sœur du parc des expositions, cette fontaine n'en est pas moins gracieuse. Elle représente des divinités antiques et a été coulée en métal de cloche à l'époque de la Renaissance par le fondeur de cloches Tomasz Jarosz. Les gouttes d'eau tombent sur le métal, le font résonner et la fontaine chante.
Il est tout à fait naturel que pendant la période des vacances, vous vous intéressez beaucoup à nos émissions touristiques. Monsieur Dani Kargoet nous donne aussi une suggestion intéressante pour notre rubrique sur le tourisme. Un grand merci pour toutes les excellentes informations touristiques que vous donnez sur votre site, écrit-il. Malheureusement pour nous, Français, il est difficile de situer les villes dont vous nous parlez sur la carte afin de créer un véritable circuit intelligent qui ne nous ferait pas retourner sur nos pas. Suggestion, en tête d'article, une petite carte de République tchèque avec un point rouge pour dire où est la ville dont vous parlez.
Monsieur Dani Kargoet, merci de cette suggestion intéressante. Nous allons en discuter avec les spécialistes de notre section internet.
C'est avec un grand plaisir que je rédige cette 77e lettre par une journée torride. Hier dimanche, je me suis calé sur les fréquences de Radio Prague à 7h30 TU. Sur 9880 kHz, j'ai pu vous capter quelques minutes, puis des parasites sont venus perturber à la réception et le signal de votre émission s'est évanoui. Sur l'autre fréquence, ce n'était guère mieux. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et pour celles ou ceux d'entre vous qui s'apprêtent à partir, je leur souhaite un bon séjour. Ceci m'amène à vous poser la question suivante. Quels sont les pays étrangers où les Tchèques aiment passer leurs vacances d'été?
C'est la Croatie qui est la destination privilégiée des vacanciers tchèques. En été, on entend la langue tchèque couramment à Dubrovnik, à Split, ainsi que dans les centres balnéaires d'Istrie. Jadis, les Tchèques passaient leurs vacances près du lac Balaton, en Hongrie, et sur les bords de la mer Noire, en Bulgarie et en Roumanie. Après la révolution de velours en 1989, ils se sont lancés à la découverte des pays occidentaux, dont la France. Cependant, au cours de ces dernières années, ils redécouvrent ces anciennes destinations et reviennent surtout en Bulgarie, qui leur propose de beaux paysages et des services corrects pour des prix très compétitifs. En été, les Tchèques se rendent aussi en Grèce, en Italie, en Espagne, en France, au Portugal, en Tunisie et sont de plus en plus attirés par la Turquie et des destinations exotiques.
La chaleur torride et la sécheresse ont frappé ces jours-ci la République tchèque et toute l'Europe. Pour finir cette émission, nous avons choisi donc le courriel reçu de la part de Magali de France. Dans la situation actuelle, ces lignes nous paraissent très rafraîchissantes car elles nous parlent des chants de Noël.
Enfin, je prends le temps de vous écrire pour vous remercier d'offrir sur le net des chants de Noël tchèques. Je suis musicienne, professeure de musique et je chante des chants traditionnels de tous les pays du monde. Je suis tombée sur votre site et pour Noël 2005, j'ai mis à mon programme pour la messe de minuit, parmi les chants d'autres pays, celui intitulé « Puidem spolu do Betlehema ». Nous allons partir ensemble à Bethléem. Outre le plaisir que j'ai eu à chanter, les gens présents ont fortement apprécié. Alors merci à vous. Si vous recherchez des chants français de Noël, je suis prête à vous les envoyer avec grand plaisir. Ne vous gênez pas.
Merci d'avoir suivi cette émission composée de fragments de vos lettres et de vos courriels.
Merci d'avoir pensé à nous, de nous écouter et de nous écrire malgré vos activités de vacances et malgré la canicule.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 116